Dans un pays où les églises se multiplient, la télé nationale a été interloquée de savoir « Mais que font donc ces évangéliques pour se multiplier ?» Alors une journaliste a pris son téléphone et a appelé un des responsables nationaux et lui a dit « Écoutez monsieur, nous voulons faire une émission à la télévision et nous voulons que vous nous décliniez, quelle est la recette pour multiplier les églises à la vitesse où vous le faites ?» Le responsable national a dit « Madame la journaliste, je suis au regret de vous dire que nous n'avons pas de recette. Je suis au regret de vous dire que nous n'avons rien changé, mais que Dieu agit. » Et la réponse de la journaliste, « Alors il n'y aura pas d'émission. » Il n'y a pas de recette. La recette de ce matin, nous l'avons entendue, c'est des cœurs qui sont transformés. Des vies que Dieu donne. Tous les événements que vous avez rendu compte, mes amis, c'est Dieu qui les contrôle. Et ce matin, nous avons assisté à ce baptême, et peut-être il est intéressant de revenir sur cette notion quelques instants. Donc je vous invite à ouvrir dans Romains chapitre 5, l'apôtre Paul a dit à ceux qui étaient autour de lui, « Je ne suis pas venu ici pour baptiser, mais je suis venu pour annoncer l'évangile, afin que des vies soient transformées. » Et là, dans Romains chapitre 5 et au verset 20, il est dit, je vais le prendre dans ma version là, parce que ma version papier a l'air un peu bizarre. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc ? Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. La signification du baptême, elle est là, elle est écrite en toutes lettres. Lorsque nous devenons chrétiens, Dieu nous donne une nouvelle vie. Nous sommes baptisés dans sa mort. Jésus est mort et nous nous identifions à cette mort. Mais nous savons que notre Seigneur n'est pas resté mort. Nous savons qu'il est ressuscité. Et lorsque nous passons par les eaux du baptême, le symbole lorsque la personne est complètement étendue, c'est le symbole de cette mort. Je suis mort. C'est un acte passé. C'est pas un acte d'aujourd'hui. C'est rien passé aujourd'hui. J'avais dit à M. Bonny l'autre fois, hein, dans un des derniers cours, il ne va rien se passer à part que vous arriverez sec et vous sortirez mouillé. C'est le seul acte en dehors du témoignage. Le baptême représente notre mort dans la mort de Christ. Une grande vérité. Nous sommes morts. Lorsque Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Cela signifie au moins deux choses. Nous ne sommes plus la même personne. Nous ne sommes plus la même personne. Et c'est ça la chose peut-être la plus difficile. Parce que même si on ressort mouillé, on a quand même l'impression que c'est le même qui ressort. N'est-ce pas ? Mais Dieu, le jour où il rentre dans notre vie, fait de nous quelqu'un de différent. Quelqu'un de changé. Et ce texte, ici, nous dit bien, que nous sommes morts. Quelqu'un qui est mort ne peut pas être la même personne que quelqu'un qui est vivant. Et il dit là que quelque part, parce que la grâce a surabondé. Une autre chose qui intervient lors de notre mort spirituelle ou notre mort physique, une autre chose, c'est notre mort physique n'aura pas la même signification que ce qu'elle aurait eu si Christ n'était pas mort. L'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens dans le 4e chapitre de sa première épître. Et il leur dit: je ne veux pas que vous soyez tristes comme les autres gens sont tristes. Je ne veux pas que vous soyez sans espoir comme les autres n'ont pas d'espoir. Notre mort physique, c'est l'introduction à une vie éternelle. Ce matin, M. Bonnier a dit qu'il avait reçu cette vie éternelle. Mais les autres aussi ont une vie éternelle. Sauf que c'est une mort éternelle dans les temps de feu. Ma question peut être un peu rêche ce matin. C'est quand on parle de ce baptême, ça veut dire qu'auparavant s'est passé un acte, et si cet acte nous ne l'avons pas compris, alors il y a quelque chose à revoir. Dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15 et au verset 55, Paul dit: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est Christ qui est la source. C'est Christ qui est représenté lorsque nous passons par ses eaux. Mais la chose la plus difficile, mes amis, c'est de mourir. Accepter de laisser nos prérogatives, nos a priori, nos représentations, notre vie. Les jeunes ont souvent dans la bouche, hein, c'est ma vie. Hein, les défilés dans Paris, touche pas ma vie. Moi, je me demande si on pourrait défiler en disant Christ est ma vie. On pourrait, hein. Ça interrogerait peut-être des gens, ça serait un petit peu agressif à mon sens, mais je ne sais pas si on aurait le droit de défiler longtemps. La réponse est que l'aiguillon et la victoire de la mort ont été avalés par Jésus-Christ. Je le redis, l'aiguillon et la victoire de la mort a été gagnée par Jésus-Christ. Cette victoire-là, nous n'avons pas à la vaincre. On peut se battre contre la maladie, on peut se battre contre les autorités, on peut se battre contre le manque de liberté. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu nous a donné la vie et que cette vie-là, elle est à l'intérieur de nous. C'est une assurance, c'est sûr. Regardez bien dans le verset 3 et le verset 4 de notre texte. Il est dit: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il y a le mot « en ». Nous avons été baptisés en Christ, nous avons été baptisés en sa mort. C'est intéressant de réfléchir. Est-ce que le baptême, est-ce que l'acte du baptême a une influence? L'acte du baptême est une obéissance. Une obéissance, la première. C'est la toute première. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est quoi la suite? Baptisez-les. Baptisez-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les. Et le baptême, c'est l'appréhension. C'est « je ne suis pas prêt, je ne suis pas convaincu, j'aime Dieu, mais je ne veux pas lui obéir. J'aime Dieu, mais il comprend Dieu. Moi, le baptême, c'est pas mon truc. » C'est une obéissance. Dieu n'est pas un acte légal qui nous remet des lois sur la tête. Mais le Dieu qui nous permet simplement de témoigner de la puissance de Christ. de témoigner de la... Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, on essaie de réduire la souffrance. Et c'est bien. Aujourd'hui, on essaie d'enlever la peine. On le fait plus ou moins bien. Mais aujourd'hui, nous pouvons assurer les hommes et les femmes qui sont autour de nous, et peut-être les gens qui nous visitent aujourd'hui, qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? L'assurance que Dieu a vaincu la mort. Et qu'en fait, il a enlevé la mort que j'avais en moi pour me donner la vie. Une vie nouvelle. Une vie différente. Une vie différente. Et là, regardez bien, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, que dirions-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché ? Afin que la grâce abonde. Je peux toujours demander pardon. Notre frère l'a fait ce matin, d'un cœur sincère. Et lorsqu'on pêche ou quand on envisage de pécher, viens derrière, oh, de toute façon, Dieu comprendra. Et je lui demanderai pardon. Le texte là, il dit, que dirions-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Regardez bien la suite. Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts, à quoi ? Morts au péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ce qui est intéressant, c'est que nous avons une nouvelle nature qui ne supporte pas le péché. Une nouvelle nature qui est allergique au péché. Alors vous imaginez qu'on soit obligé de prendre comme les pauvres personnes qui sont atteintes d'asthme, hein, vous savez, un petit peu d'air. Hein, c'est attristant, hein, de voir les frères, des sœurs qui sont touchés par cette maladie et qui sont obligés de se ventiler. Eh bien, ayant un peu cette image-là, nous qui avons une nouvelle nature, nous sommes asthmatiques quand le péché est là. Et on est toujours obligé de se mettre un peu d'air pour respirer un peu. C'est ce que le texte dit, c'est pas moi qui le dis. Demeurions-nous dans le péché ? Non, c'est pas possible. Parce que c'est pas notre nouvelle nature. Mettez, on dit, beaucoup de gens, si vous allez au musée océanographique de Paris, à l'entrée, il y a une fois, j'avais amené mes jeunes, et je suis un peu désolé de lire l'introduction, mais peu importe. Sur l'entrée, il est marqué que nous venons, non pas du singe, mais articule que nous venons du dauphin. Ceux qui ne croient pas aller au musée océanographique à Paris. Alors, on vient du dauphin. Alors, un jour, il y a un dauphin, il s'est mis sur sa queue, il est sorti de la mer, et puis il s'est dit, tiens, je vais devenir un homme. Mais mes amis, qu'est-ce qui va se passer si vous sortez un dauphin de l'eau ? Il va mourir. Et bien, c'est ce qui nous arrive à nous lorsque nous péchons, mes amis. Nous sommes en danger de mort. Nous sommes morts à Christ pour vivre, pas pour mourir. Le prophète Ézéchiel dit, Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente. Qu'il dise, bon sang, c'est pas la bonne route. Et là, il y a plusieurs moyens. Hein. Il y a les frères et sœurs, il y a les autorités. Vous savez, quand on conduit et qu'on fait des bêtises, enfin, vous en faites pas, vous, moi, je présume. Avant, je disais maintenant, on a peur des boîtes carrées, là. Vous savez, qui vous envoient une photo souvenir. Enfin, ils ne l'envoient pas, d'ailleurs. Parce qu'ils ont eu des problèmes en envoyant les photos. Parce que des fois, ils trouvaient qu'il y avait bien monsieur dans la voiture, mais il y avait la dame d'à côté, c'était pas madame. Donc, ils ont organisé des procès après. Mais avant, quand on voyait une camionnette bleue garée sur le côté, que faisons-nous à l'époque ? Instinctivement, tout chauffeur qui se respectait à l'époque, on mettait tous le pied sur le frein et on regardait le compteur après. Oh bon, moi, j'étais plus qu'à 40. Hein. Oui, mais après avoir freiné. On avait peur du gendarme. Maintenant, on a peur des boîtes parce qu'on dit qu'ils sont capables de me prendre même si je ne fais pas de bêtises. Hein. Parce que de temps en temps, ils prennent des tracteurs et disent qu'ils sont à 150 à l'heure. Mais c'est pas vrai. Notre Dieu n'est pas un gendarme. Notre Dieu n'est pas le policier qui se cache dans les touffes d'herbe pour nous prendre au piège. Notre Dieu, à la croix, il a offert la vie. Notre Dieu, il a dit, vous ne vouliez pas, mais moi, je vous aime. Vous ne me demandez pas pardon, mais moi, je vous l'offre. Et quand est-ce que ça devient vrai, mes amis? On peut toujours dire, oh, mais j'accepte le pardon de Dieu. Il me pardonne, c'est bien. C'est quand j'ai conscience que ma vie n'est pas conforme. C'est quand j'ai conscience que ma vie est remplie de péché et que peut-être je vis dans le péché. Alors là, il se passe des choses. M. Bonnier l'a témoigné ce matin. Alors on demande pardon à Dieu. Vous vous rappelez le fils prodigue, quand il va voir son père, qu'est-ce qu'il lui dit? Papa, j'ai péché contre toi? Non, il dit d'abord, papa, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Parce que j'ai blâmé Dieu, parce que j'ai fait des choses qui n'étaient pas normales pour Dieu. Alors je te demande pardon, mais je lui ai demandé pardon. Vous vous rappelez, il est rentré en lui-même, le fils prodigue. Ça veut dire qu'il s'est regardé à l'intérieur et il a dit, oula. Nous sommes baptisés en Christ, en sa mort, et nous ne pouvons pas demeurer. Parce que notre nature, c'est pas qu'elle ne veut pas. Ce qu'elle ne peut pas. Alors, est-ce que Dieu va être là avec la boîte à photos en nous disant, mais alors, c'est au moins la 30e amende que je t'envoie. Bientôt, on va te retirer le permis. Et mes amis, quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas nous retirer le permis. Quand on est le permis spirituel, hein, ne dites pas un jour, mon pasteur, il a dit qu'on ne pouvait pas me piquer le permis, moi je suis chrétien. Hein. J'assume pas là, je paye pas l'amende. Quand Dieu nous donne la vie, c'est pour l'éternité. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'il nous donne la possibilité de changer. Que cette nouvelle vie spirituelle nous amène à mettre notre vie en règle. Ça peut prendre du temps. Mais sachez une chose, mes amis, nous ne savons pas quel est le jour de notre départ. Vous savez, il y a des choses, je me rappelle un jour, ça n'a pas grand-chose à voir, mais en tout cas, mon papa un jour disait, « Oh là là, ma voiture, j'ai des problèmes avec les freins, il va falloir que je fasse quelque chose avant qu'il m'arrive un truc. » Sauf qu'il n'a pas fait les choses et il lui est arrivé un truc. C'est qu'une voiture s'est arrêtée devant lui et qu'il a enfoncé le coffre de la voiture de l'autre et il a abîmé sa voiture. Quand nous vivons dans le péché, mes amis, nous pouvons rencontrer Dieu demain, en sortant, avant d'avoir réglé les choses, tout en les sachant. Mais on prend le temps. Oh, ça demande du temps à corriger. Ça va prendre du temps à négocier. Ça va prendre du temps à changer. Mais si je ne prends pas la résolution dans mon cœur, alors il va y avoir un problème. Le baptême représente le renouveau de notre vie en Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans sa mort, afin que comme Christ est ressuscité, par la gloire de même, nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Qui d'entre nous qui a des enfants a déjà vécu ce jour extraordinaire où vos petits bambins ils se lèvent et qu'ils essayent de traverser la pièce? C'est extraordinaire, non? Eh bien, c'est un peu ça quand on vient à Christ. C'est faire ces nouveaux pas. On titube, on marche de travers, on tombe parce qu'on ne tient pas bien debout. Mais progressivement, l'assurance vient, n'est-ce pas? Progressivement, on se tient sur les pieds et progressivement, marcher à quatre pattes ou ramper par terre, symbolique du péché, hein, on n'a plus envie. Alors, mes amis, cette nouveauté de vie, on peut l'avoir, mais c'est surtout, Dieu nous a laissé, tout à l'heure, Annick Laura parlait de ça, comme des lumières dans le monde. Des gens qui brillent. Des gens qui font apparaître l'éclat de Dieu en nous. Est-ce que c'est ce que les autres voient? Ou est-ce qu'ils voient que tous les phares sont éteints, que toutes les lumières sont cachées, que ça brille pas trop là, que même au contraire, j'essaie de négocier au mieux pour passer inaperçu. Le baptême, c'est le témoignage que je suis maintenant dans une vie nouvelle et que j'ai besoin de la communauté, des frères et des sœurs. Je compte sur eux. Vous savez, j'ai dit aux hommes hier, si un jour vous voulez prendre une résolution, alors vous avez deux moyens de prendre une résolution. Dans votre lit, tout seul, en disant, demain, je commence. Le sport, le régime, et tout, et tout. Et puis vous levez le lendemain, vous regardez dehors, il pleut. C'est mal parti. Ah, s'il y a un petit rayon de soleil aujourd'hui, allez, j'y vais. Et puis il y a un petit rayon de soleil. Ah, s'il est dur, je vais y aller. Pourvu qu'il pleuve. Et puis on n'y va pas, mes amis. On n'y va pas. On a peur. C'est pas notre ami. On aimerait tellement y aller. Ah, il court bien, lui. Oula, mais ça doit faire longtemps, parce qu'il court vite, Et puis, si on va voir un frère, si on va voir 3-4 frères, on leur dit, les frères, pour mon bien personnel, il faut que je fasse cela. Vous les priez pour ça? Et puis, vous voulez m'encourager à le faire? Alors, je deviens redevable. Et là, mes amis, je le fais. Non? Les résolutions les meilleures, c'est celles qu'on prend devant témoins. Devant la communauté, devant les frères et sœurs, devant les sœurs, devant ceux avec qui j'ai confiance, qui ne vont pas hésiter à me dire, alors, t'en es où? Oh, bah tu sais, aujourd'hui, t'as vu le temps qu'il a fait aujourd'hui, hein? Attends, je n'avais pas à courir quand même. Ah, j'avais un ami comme ça, Il terminait son travail, il neigeait, il grêlait, il pleuvait. Malheureusement, il venait me chercher pour courir. Je pouvais même pas me baser sur le temps, même si ça... On travaillait tous les deux à peu près jusqu'à 17h l'après-midi. Même je rentrais avec les essuie-glaces et tout, c'était épouvantable. Je disais, André, il va être devant ma porte. Et il était là, le bougre. Mais Jean-Claude, c'est bien pour toi, cours. Oh, c'est bien là, tu crois, mais on va attraper la mort, Notre vie chrétienne, c'est ça, mes amis. C'est peut-être un peu illustré, mais c'est ça. On a besoin des autres. Et Dieu le sait, parce que nous sommes faibles. Parce que quelque part, c'est difficile d'arriver à l'heure. C'est difficile d'être au bon endroit. C'est difficile d'exhorter. C'est difficile d'aimer. Mais Dieu nous en a donné la capacité parce qu'il nous a donné une nouvelle vie. Non ? Regardez dans ce livre de loi. Ce livre de loi du Deutéronome. C'est la redite de la loi. On peut traduire deuxième loi, mais en l'occurrence, ça veut dire redite de la loi. Ça a déjà été donné, la loi. Et moi, je trouve il y a un texte extraordinaire dans ce chapitre 30 du Deutéronome. C'est que la loi demandait, donc le signe d'appartenance du peuple à Dieu, c'était la circoncision pour les hommes. Et là, il y a un texte qui passe un peu inaperçu, qu'on zappe assez vite, c'est le verset 6, Deutéronome, Ancien Testament. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, toi et ta famille, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. C'est intéressant, il ne dit pas, je vais circoncire ton cœur, alors il faudra que tu fasses des choses pour aimer Dieu. Le texte, il n'est pas légaliste. Le texte, il dit, le fruit, l'apparence, l'extériorisation du fait que Dieu aura circoncis ton cœur, c'est que tu aimeras Dieu parce que c'est ce moyen-là que tu vis. Ah ! Vous avez déjà fait cette lecture ? Quand ton cœur sera circoncis, alors il se passera des choses dans ta vie. S'il ne se passe rien, c'est peut-être une question à se poser. Est-ce que je connais intellectuellement les choses ? Est-ce que j'adhère ? Est-ce que je veux. Oui, c'est intéressant de relire les textes de loi. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, verset 8, tu obéiras à sa voix, tu mettras en pratique tous ses commandements. C'est ce qu'a inspiré l'apôtre Jacques, hein. Ne vous bornez pas simplement à écouter, mais mettez en pratique. Verset 10, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements, ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Quel est le plus grand commandement ? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Waouh ! Parce que Dieu a circoncis mon cœur. Parce que Dieu a fait de moi un être changé. C'est ça la signification du baptême. C'est un acte passé. C'est simplement l'expression, la démonstration. Alors, c'est pas facile pour tout le monde. Mais regardez bien. À la naissance de l'Église, dans le chapitre 2 des Actes, dans le Nouveau Testament, juste après les Évangiles, Jésus a annoncé quelque chose. Il a annoncé la venue de l'Esprit. Et il a dit... Attendez ces choses, alors il va se passer quelque chose de bien. Regardez bien, verset 41, acte 2, 41. Nouveau Testament, juste acte, Matthieu, Marc, Luc et Jean, juste derrière, c'est le livre des actes. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Pierre était content, il était le pasteur d'une grande communauté. Il persévérait, regardez bien. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Là, il y a un mot qui est difficile. Il y a un verbe qui est gênant. C'est lequel ? Persévérer. Oh. Persévérer. Persévérer, ça veut dire qu'il y a des moments où c'est pas si facile que ça. Persévérer, c'est je suis fatigué. Persévérer, c'est dire, après la journée que j'ai eue, aller m'asseoir à l'église. Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Ensemble. Ils étaient ensemble. Regardez bien, verset 46, le fruit de ça. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Et regardez bien, il y a une ambiguïté là dans le texte. C'est intéressant parce qu'ils sont tous réunis dans des temples. Les murs sont clos, les portes sont fermées. Mais regardez bien. Et ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Mince. Un truc qu'on ne comprend pas là. Ils sont fermés, ils sont tous ensemble. Mais alors, comment ils font pour témoigner ? Parce que leur vie, lorsqu'ils sortent du temple, est transformée. Leur vie est transformée, mes amis. C'est plus les mêmes. Je rentre mort, je sors vivant. Je ne change pas de clocher. J'ai pas changé de religion. J'ai rencontré, il a dit, Monsieur Bonny, il a été dans des églises où il n'a pas rencontré son Dieu. Ou au moins celui qu'il cherchait. On peut avoir le nom église. Et Dieu n'habite pas là, parce que les chrétiens ne sont pas là. C'est pas les murs, l'église. Hein. C'est pas le bâtiment, c'est les membres. Et là, regardez bien, ils persévèrent, alors ils deviennent assidus. Dieu circoncit le cœur. Alors, ils aiment Dieu et ils servent Dieu. Et ils ne peuvent pas, selon notre texte, demeurer dans le péché. How ? Ça fait mal, hein ? On peut se poser la question, mais alors, et moi ? Et vous dites ce matin, Jean-Claude, il règle des comptes, je règle rien du tout. Je comprends mieux les textes. Il n'y a pas de recette, mes amis. On peut bâtir tous les programmes qu'on veut. On peut élaborer toutes les techniques qu'on veut. Le seul qui est capable de changer les vies. Le seul qui peut mettre de la persévérance dans mon cœur, de l'assiduité. C'est Dieu. C'est une question de relation verticale qui a des impacts horizontaux. La croix, il y a un axe vertical et un axe horizontal. Dans Colossiens chapitre 2, si vous voulez suivre avec moi, Colossiens chapitre 2, et c'est le verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et regardez bien, il redonne le diagnostic, il dit « Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix, il l'a dépouillé. Les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. Comment ? En triomphant d'elle par la croix. Ce qui triomphe du monde, ce qui triomphe de la mort, c'est l'amour. La plus grande des participations, le plus bel acte. On l'a lu tout à l'heure dans Deutéronome 30, c'est d'aimer Dieu. Alors, peut-être aujourd'hui, si on se posait la question, mais est-ce que j'aime Dieu ? Est-ce que je l'aime au point que j'ai accepté de mourir ? Est-ce que je l'aime au point que déjà le premier commandement qu'il m'a donné, après celui d'aimer, j'ai accepté ? Accepté de témoigner devant les frères et sœurs que oui, j'aime Dieu, que je veux intégrer la communauté de Christ. J'appartiens à l'Église. Monsieur Bonny, il appartient à l'Église universelle avant de venir là ce matin. Il a été introduit dans l'Église le jour où il a accepté Jésus-Christ. De manière locale, on l'accepte parce que là, il témoigne. Mais il appartient, c'est déjà un frère de sang. C'est déjà un frère, pas de sang, c'est déjà un frère spirituel. Depuis longtemps. Mais quand on prend la décision de témoigner, de s'engager, alors l'ennemi vient derrière. Et lui, il nous fait des croche-pattes. Bon non, quand même, pas lui. T'as vu qui c'est ? T'as vu ce qu'il a fait ? Et là, ah bah oui, quand même. Ah, il tolère ça, le pasteur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai posé la question. Quand on dit à quelqu'un, je te demande pardon. Souvent, il n'y a pas de réponse. Hein. Ah ouais, j'entends bien, ouais. Qu'a fait Jésus quand on lui demande pardon ? Qu'est-ce qu'on a fait le jour où on a demandé pardon à Jésus, mes amis ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a rendu vrai le fait que lui nous avait pardonné le premier. Mais pour que ça soit officiel, il fallait que je l'accepte et que moi aussi je demande pardon. Galates chapitre 2, verset 20. Vous connaissez ce texte ? Je crois qu'il est dans les 38 versets qu'on a appris. Galates chapitre 2, verset 20. On va lire juste l'introduction. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ce n'est pas un acte légal. C'est un acte de grâce. Ce n'est plus moi qui vis. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est intéressant, on connaît les textes. Mais on est des croyants et pas trop des pratiquants. On a un peu de mal. Mais Dieu nous aime, mes amis. Dieu est patient, Dieu est miséricordieux. Mais lui, il sait le jour où il va vous reprendre. Il sait le jour où on va rentrer dans sa gloire. Il sait le jour où il va falloir aller devant lui. Et lui dire, c'est mon dossier sur le bureau, là. Vous savez, il y a des fois des dossiers, le dossier médical de mon épouse, hein, quand on va chez son cancérologue, il est à peu près épais comme ça, là. Par toutes les étapes sur lesquelles elle est passée. Tout ce qu'elle sait, c'est que son corps se dégénère, mais que l'intérieur se régénère. Et d'autres, il y en a, ils ont un dossier comme ça, mais c'est plutôt un dossier de justice. Dieu, il a fait une chose. C'est qu'à la croix, notre dossier, il l'a brûlé. Il y a bien des années, alors que j'étais jeune pasteur, un peu jeune coq, j'avais un peu décidé qu'un de mes collègues plus anciens que moi avait tort sur un point. Alors, on a commencé à utiliser ce nouvel élément qu'on appelait le email pour s'adresser des épîtres l'un à l'autre. Mais à chaque fois, il y avait la surépître, la surenchère. Oui, mais tu dis, mais moi je dis. Et puis ça a duré un certain temps. Et puis quand même, comme nous sommes des serviteurs de Dieu et qu'on demandait l'amour de Dieu et la direction de Dieu, un jour, on a pris la décision. On a dit, allez, on se rencontre. Alors chacun d'entre nous, on a imprimé les mails. Et on a dit, on va se rencontrer, on va discuter des mails. Et puis on est arrivé là en face de l'autre. Et il m'a regardé, il m'a dit, Jean-Claude, je t'aime. J'ai appris tout ça. Alors j'ai dit, Roger, j'ai tort. Alors on a fait une chose. On a tous les deux, c'était mon bureau, il y avait la poubelle en plein milieu. On a pris chacun nos dossiers. On les a jetés, on a été sur nos ordinateurs et on a fait delete. Annule. C'était pas facile. Lui, l'homme d'expérience, moi le jeune coq qui savait tout, qui allait révolutionner le monde. On est comme ça quand on est jeune, hein. On fait beaucoup de bêtises. Ce jour-là, il y a eu une grande victoire. Parce que Dieu a changé nos vies. Nous étions dans le péché, mes amis. Mais il a fallu passer par là. Et ça n'a pas été facile. Ça s'est terminé au Buffalo Grill, hein, autour d'un repas. C'est pas le Buffalo Grill le plus important, mais au moins, c'est là qu'on s'est réconcilié. Mes amis, Dieu nous prépare un grand repas. Au ciel. Là, on ne viendra pas avec nos vieux dossiers. On ne va pas venir avec nos vieilles histoires. On va pas dire, ah, il y a lui à table, attends, il faut que j'aille voir, parce que j'ai pas une dent contre lui, j'ai la mâchoire entière. Non ? Mes amis, il faut régler nos problèmes. Il faut décider aujourd'hui, pas demain. Notre vie n'est pas conforme, réglons-la. Nous avons quelque chose contre quelqu'un, allons lui demander pardon. On sait qu'il a quelque chose contre moi, alors je vais aller le voir. Et on va régler le problème. C'est ça que Christ nous apprend, mes amis. C'est ça, c'est sa parole. On a tellement de mal à la mettre en pratique. On a tellement de mal parce que quelque part, nous ne sommes pas morts. Mais Dieu est mort à ma place. Il a souffert à ma place. Il a payé à ma place. Pour que j'aie la vie. Alors ce matin, rendons gloire à Dieu, mes amis. Dieu a changé un homme. Dieu l'a fait traverser les continents pour qu'il trouve son Dieu là. Mais ce Dieu-là, il habite aussi en Côte d'Ivoire. Là-bas, il y a aussi des églises. Là-bas aussi, il y a aussi des chrétiens, mais il a fallu qu'ils viennent là. J'espère que nous n'aurons pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour rencontrer Jésus-Christ. Pour abandonner nos péchés. Et que Dieu puisse circoncire notre cœur. Alors il va se passer quelque chose. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, nous sommes des hommes un petit peu têtus, des hommes et des femmes rebelles, parce que nous t'aimons, Père. Nous te disons, je t'aime, je t'adore. Mais notre vie n'est pas en conformité. Mais notre vie n'est pas droite, parce qu'elle est entachée par nos manques de relations, nos manques d'amour, nos manques de compréhension, nos manques de tolérance. Mais Père, nous réalisons, comme nous l'avons lu ce matin, que le seul qui peut changer ça, c'est toi. Le seul qui peut circoncire mon cœur. Pas ma chair, mais mon cœur. Père, c'est toi. Alors ce matin, nous voulons profiter de ce jour de joie. Ce jour où notre frère a pu témoigner, Seigneur, combien une première fois, il t'a demandé pardon et il a fallu une deuxième fois. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas une troisième, mais Seigneur, même s'il y avait une troisième, tu lui pardonnerais. Mais Seigneur, ce matin, si c'est un jour de joie parce que quelqu'un t'obéit, mon cœur, c'est que ce soit un jour de joie parce que des frères et des sœurs voudront décider de régler leur vie. Voudront décider d'abroger ces difficultés, ces querelles, ces amertumes. Que peut-être, comme avec notre sœur qui a témoigné que tu lui avais offert des fleurs, eh bien aujourd'hui, tu voudrais mettre un bouquet de fleurs dans notre vie qui nous dit que tu nous aimes et que tu veux nous le rappeler. Alors, mes amis, l'appel est clair ce matin. L'appel est clair. Est-ce que notre cœur a été circoncis? Est-ce qu'il est circoncis au point que notre vie, nous ne pouvons plus vivre dans le péché? Peut-être ce matin, nous réalisons, c'est vrai, j'ai envie de régler, mais c'est tellement difficile. Je voudrais bien, mais j'ai besoin de prendre cette décision. Alors d'habitude, moi je fais juste lever la main et je prie pour vous. Mais je l'ai dit ce matin, le meilleur moyen de prendre un engagement, c'est de le prendre devant témoin. Et peut-être, ce que je vais faire, ça va être difficile, mais je voudrais tout simplement que mes frères et sœurs, ceux que Dieu aime, qui ont ces difficultés de vie, qui peut-être ont une querelle avec quelqu'un, qui peut-être ont une amertume avec quelqu'un, qui peut-être ont des regrets, et qui disent ce matin, Seigneur, c'est vrai, ma nature, cette nature que tu m'as donnée, ne supporte pas cela. Et peut-être qu'ils se lèvent tout simplement à leur place. On n'est pas là pour les juger. Mais on est là pour les aider. Le premier qui peut les aider, c'est Dieu. Mais Dieu a choisi la communauté pour entourer, pour aimer, pour soutenir. Alors si dans votre vie, il y a des obstacles, si dans votre vie, il y a quelque chose de difficile à gérer. Si votre vie n'est pas conforme, Dieu ce matin vous appelle. Il dit « Je t'aime. Je t'aime. Et je veux t'aider à régler ces problèmes. » Alors si c'est votre cas, mes amis, mon appel ce matin, c'est juste « Levez-vous à votre place. » Parce que nous sommes là pour vous aider. Après Dieu. Et nous voulons être témoins de votre engagement, pour que cet engagement aille jusqu'au bout, pour vous soutenir quand ça sera difficile, pour vous encourager, pas pour vous écraser. Y a-t-il quelqu'un, un homme, une femme, un jeune, un moins jeune, qui dit ce matin, je veux régler? Ça ne veut pas dire que ça va être fait demain, mes amis. Et ça veut dire que vous prenez cette résolution ferme de régler vos problèmes. lui a dit, je veux que vous soyez saints, comme moi je suis saint. Y a-t-il quelqu'un ce matin? C'est pas facile. Oui. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Penche-toi devant. Oui. N'hésitez pas. Si vous voulez venir devant, vous venez devant. On va prier pour vous. C'est devant témoin. C'est pas un jugement. C'est pas un jugement. C'est juste un engagement. C'est pas facile, hein? Pas facile devant témoin. Mais Dieu nous aime. Dieu a créé la communauté exactement pour ça. Eh bien, Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous sommes dans la joie. Parce que, Seigneur, ta parole a pénétré nos cœurs. Parce qu'elle nous fait du bien, Seigneur. Et nous voulons voir ces amis ce matin qui se sont levés. Nous ne savons pas exactement la cause profonde de leurs difficultés. Nous ne savons pas exactement comment elles sont arrivées là. Mais ce que nous avons compris ce matin, Seigneur, ce n'est qu'avec toi, Seigneur, qu'elles pourront aller au bout. Et si tu as choisi ce matin la communauté de Vigneux pour leur parler, tu n'as pas choisi la communauté de Vigneux pour les juger, pour les écraser, pour les opprimer, mais Seigneur, pour les soutenir, pour leur faire du bien, pour les aider à prendre à ce que cette résolution soit une vérité dans leur vie. Alors sois béni, Seigneur, pour nos deux sœurs. Et je te les remets, Seigneur, afin que nous puissions pas simplement être témoins ce matin, mais qu'on devienne acteurs dans leur vie, comme toi tu l'es, et qu'elles puissent avoir la victoire et que ça puisse en entraîner d'autres. Sois béni, Seigneur, pour nos deux amis. Et sois béni, j'en suis sûr, pour ceux qui se demande s'ils ne devraient pas venir ce matin. Mais tu connais leur cœur. Tu sais pourquoi elles ne viennent pas. Et là non plus, tu ne veux pas que nous les jugions. Peut-être on aimerait qu'un tel ou un tel soit devant. Mais c'est en ton temps, Père, que tu le feras. Et nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui connaît notre agenda, connaît les difficultés, connaît, provoque les opportunités. Et comme Paul l'a dit dans Romains 8, Seigneur, qui permet que toute chose concourt au bien. Alors sois béni ce matin pour nos deux amis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs.